conditions de quorum sont remplies. Donc, on va pouvoir, je vais pouvoir ouvrir la séance du Conseil communautaire que la commune d'Andouillé-Neuville accueille ce soir. Merci, Aurore. Travail de classement de papier pour commencer. Bien, Andouillé-Neuville, Aurore est bien présente. Aubigné, j'ai pas vu Pascal. Non. Le maire de Fins est présent. Isabelle Lavaste, présente. Loïc Almeras, présent. Isabelle Joucran s'excuse et a donné pouvoir à Loïc Almeras. J'ai vu que Marine Keshit s'excusait et a donné pouvoir à Valérie Bernabé. Patrice Guérin, donner pouvoir à Pascal Goriot. Valérie Bernabé, présente. Pascal Goriot, présent. Jean-Luc Dubois, présent. Sophie Le Drian-Kennec-Du s'excuse pour le début de séance et a donné pouvoir à Patrice Dumas, qui s'est installé où ? Oui, merci. Marie-Édith Massé s'excuse et a donné pouvoir à Sophie Le Drian, qui sera donc pouvoir qui sera effectif à l'arrivée de Sophie. Gaël Mestris s'excuse à donner pouvoir à Claude Jaouen. Jean-Baptiste Marvaux s'excuse à donner pouvoir à Jean-Luc Dubois. Et Michel Lauré s'excuse. Les représentants de Montreuil-le-Gaz sont bien présents. Montreuil-sur-Isle, Ginette présente. Et Yvon Taillard s'excuse à donner pouvoir à Ginette. Commune de Moisé, son maire est présent, Frédéric. Carole Amon s'excuse, pas pouvoir être là. Josette Masson s'excuse de ne pas pouvoir être là et a donné pouvoir à Jacques Richard jusqu'à son arrivée. Donc arrivée retardée et le temps, pouvoir à Jacques Richard. Christian Dumilieu est bien présent. Saint-Germain-sur-Isle, je n'ai pas vu Bertrand, je n'ai pas vu Sylviane. Yves Desmites pour Saint-Symphorien est présent. Yannick Larivière-Gillet est présent également. Sens de Bretagne, tous les conseillers communautaires de la commune sont présents. Gérard Morel, Véronique Saint-Huc et Yannick Lecomte. Noël Bournonville est présent. Pascal Devam, pas vu. Daniel Witt est présent. Laurence Blaise aura du retard. Ok, donc excusez pour le début de séance. Okay. J'ai oublié personne ? Parfait. Merci. Je sollicite un volontariat pour les fonctions de secrétaire de séance. Aurore se désigne tout de suite, sachant que par défaut, ça pouvait de toute façon revenir que vers elle. Merci beaucoup. Pas d'opposition. Très bien. Merci beaucoup. Notre premier point à l'ordre du jour du Conseil de ce soir, c'est la présentation du rapport d'activité de l'année 2022 de notre Conseil de développement, si je peux me permettre d'utiliser le possessif, enfin, du Conseil de développement du Val-d'Ille-Aubigné. C'est M. Philippe Ledu qui est membre du Codevia et qui est présent ce soir pour nous présenter ce rapport d'activité.
Voilà. Merci, à vous. Monsieur. Merci de me donner la parole, Monsieur Jaouen. Voilà, donc je pense qu'on peut passer directement à la diapo suivante. Sur une quarantaine de membres au démarrage, c'est-à-dire finalement il y a 2 ans, puisqu'on entame la 3e année, donc la dernière année en fait du mandat, nous sommes, il reste à peu près 30 personnes. Donc il y a quand même un peu de déperdition, même si quelques nouveaux sont arrivés. Il y a toujours un équilibre homme-femme égal, ainsi qu'une représentation relativement bien répartie sur l'ensemble du territoire, même si certaines communes souffrent de l'absence de membres dans le CODEV. On n'a personne à Sens, on n'a personne à Andouillé-Neuville, on n'a personne à Aubigné, par exemple. Et c'est dommage, parce que certains sujets mériteraient que on est des citoyens de ces communes pour pouvoir étudier les sujets posés. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, l'activité de l'année 2022 se répartit entre des réunions plénières où les 3/4 des membres sont présents et qui font le point sur les sujets d'actualité, également sur le travail des groupes de travail. Donc il y a eu 5 réunions tout au long de l'année 2022, c'est-à-dire à peu près une réunion tous les 2 mois si on compte l'écart particulier des vacances. Cette année 2022, il n'y a pas eu de saisine de la part de la communauté de communes, puisque la loi prévoit cette possibilité, mais ça n'a pas été le cas cette année. Par contre, le CODEV a été associé à un certain nombre de réflexions. Il a donc été invité à des réunions, par exemple au comité des partenaires de la mobilité, où il a rendu un avis assez étoffé. Il a été invité également à participer aux réunions concernant le plan local de l'habitat, de réunions. Donc 3 membres étaient présents. Et puis, autrement, il a participé donc à un certain nombre de groupes tout au long de l'année. Par exemple, le comité unique de programmation, le CUP. Le CODEV a également été présent, par exemple, à l'organisation de l'étonnant voyage qui mettait en avant la situation des personnes en situation de précarité, donc, et qui est passé sur les territoires Vadil-Aubigné. Participation également au comité de pilotage du contrat de solidarité territoriale, 2 personnes à chaque fois, au bilan du SCOT, à l'Observatoire territorial et citoyen des conseils de développement, contribution fournie à l'appel à projet LEADER, rencontre avec le CESER et le réseau des conseils de développement breton, et puis également participation aux journées européennes de la participation à Rennes. Enfin, au comité de pilotage du projet alimentaire territorial du Vadil-Aubigné. Donc présence dans un certain nombre de réunions statutaires auxquelles on est invité et qui permettent finalement de comprendre comment fonctionne la communauté en lien avec, avec ses partenaires. En dehors de ça, le CODEV travaille avec des groupes de travail, et il y a 3 groupes de travail. Alors le premier, ça s'intitule Démocratie. Donc toujours à peu près 10 de membres présents dans les groupes de travail. Ce groupe s'est plus appesanti d'un point de vue théorique sur la question de la démocratie locale. C'est de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire pour eux. Et le but serait d'analyser aujourd'hui la mobilisation de la société civile concernant les orientations du PCAET. Mais c'est encore pour l'instant un vœu qui n'est pas tout à fait réalisé. Suivant. Le groupe de travail Nourrir le territoire, par contre, a un bilan assez important parce qu'il a participé donc à une table ronde sur la sécurité sociale alimentaire qui a été organisée au mois de juin. Organisé également une soirée conférence-débat dans le cadre du festival alimentaire qui a réuni une centaine de personnes autour d'un film qui s'appelle La part des autres sur l'alimentation des personnes en situation de précarité. et puis s'est penché sur l'organisation d'un grand banquet qui a eu lieu récemment. Donc là, ce sera plutôt sur le rapport 2023. Un grand banquet et donc la mobilisation de personnes, des producteurs locaux. Enfin, il y a un groupe de travail qui s'appelle Territoire inclusif et qui se penche, qui a pris la question du territoire inclusif par le biais des lieux d'accueil, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tiers-lieux ou lieux de lien. Donc, a fait le recensement des tiers-lieux et des lieux de lien sur le territoire, rencontré les différents acteurs avec une analyse de leur fonctionnement qui soit un peu comparative, de façon à pouvoir faire des liens entre les différents partenaires. Le but étant de les faire se rencontrer ultérieurement et d'organiser aussi peut-être un soutien à leur action. On se rend compte que ces lieux sont importants dans les communes quand ils existent et qu'ils amènent une animation culturelle, qu'ils permettent aussi des marchés alimentaires, qui permettent aussi d'accueillir un certain nombre de personnes de manière conviviale. On pense à Brocoli, à Sens de Bretagne ou Léonard à Andouillé, par exemple. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de mobiliser pour une journée qui aura lieu le 7 octobre 2023. Donc la journée, un samedi. Vous pouvez noter cette date sur vos calepins. Donc où les tiers-lieux seront présents dans des ateliers techniques et où un repas bio et local aura lieu le midi et l'après-midi, une conférence gesticulée. Pour finir, je voulais vous parler de la communication du CODEV. Alors, il y a eu un certain nombre de rencontres des conseils municipaux. Il y en a eu 4 en 2022. Il y en avait eu en 2021. En 2022, d'ailleurs, on est venu à Andouillé, par exemple. En communiquant auprès des habitants à travers les magazines communautaires, le site internet de la communauté, puis aussi un certain nombre d'articles dans la presse. Et en élaborant, alors, pour ces visites, par exemple, de conseils municipaux, il a été élaboré collectivement à Diaporama. Et puis, nous avons également produit un petit flyer dont je fais passer un exemplaire. Je crois que notre animatrice Émilie en a mis un par commune seulement. Pour se présenter sommairement et permettre aux gens de nous contacter si nécessaire. Voilà, pour finir, donc le CODEV a un bilan financier. Je pense qu'il doit apparaître en diapo. Non, c'est tout, il n'est pas présenté. On a un budget de 21 600 euros qui comprend évidemment essentiellement un poste de frais de personnel de 18 300 euros, le reste étant des frais de déplacement, de réception et de communication. Je voulais juste terminer en disant que, en cas de saisine, c'est pour nous important d'être saisi relativement en amont et qu'on ait un délai de réflexion. On est saisi là, par exemple, pour le projet de ligne de transport qui ramènerait une partie de la population vers la gare de Montreuil. Et cette saisine nous est arrivée en fin de semaine dernière et donc, en fait, on doit rendre ça pour le 23 juin. Et en fait, les gens du CODEF sont des gens qui sont déjà engagés pas mal dans les associations, c'est le cas des retraités, ou très engagés dans leur métier. Si bien qu'en fait, c'est assez difficile d'avoir une réactivité très forte sur quelques jours. Et du coup, là, on se retrouve en difficulté. Ce soir, c'est la plénière. On va quand même présenter le projet. On va voir si on est en état de donner une réponse sérieuse. Mais ce délai, pour nous, est absolument important. Et on sait l'attachement que vous avez au CODEF parce que c'est grâce à vous qu'il existe, mais il ne peut exister effectivement que si il a ses moyens en temps de réactivité par rapport aux questions qui lui sont posées. Voilà.
Merci beaucoup. C'est bien noté concernant les délais. Vous nous le rappelez régulièrement. Il se trouve là que sur cette question de projet de création de lignes de transport régulières intra-territoire, c'est vraiment un peu court. Hein. Mais, merci de votre présentation. Y a-t-il des questions ? Valérie ?
L'espace de vie sociale n'apparaît pas de la Mézière n'apparaît pas dans les tiers-lieux. Je suis surprise, c'est volontaire, c'est un oubli. C'est...
Je pense que c'est un oubli. En fait, c'est pas
une... D'accord.
C'est plutôt des exemples qui ont été mis, effectivement. C'est important pour nous que le social soit présent dans la
vie. D'autres interrogations ? Frédéric ?
Moi, pas d'interrogation. Pas d'interrogation, mais juste confirmer qu'il y a eu un gros travail de fait de la part du CODEF. Bon, vous savez mon attachement au CODEF de toute façon, mais on a travaillé régulièrement dans le cadre du projet alimentaire territorial. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions et des belles actions entre la participation au festival alimentaire. Une fresque récemment, bon, ça sera mis sur le rapport d'activité aussi 2023 à Gréalim, le banquet récemment, etc. Et c'est vrai que voilà, c'était important dans le cadre du PAT d'avoir aussi ce lien avec le Codevia qui représente nos habitants, mais on va aussi vers les habitants via les défis alimentation positive, etc. Et c'est des choses qu'on notera, nous, dans notre bilan du PAT, parce que c'est important de faire savoir, notamment à nos financeurs, qu'il y a eu ce partenariat et que ce n'est pas uniquement un travail des élus ou autres qui a en effet une représentation citoyenne. Alors, merci en tout cas pour votre travail, parce que vraiment il y a eu un gros travail de fait de la part notamment du groupe avec une mise en avant, notamment je me souviens des producteurs locaux à travers un buffet. Alors c'était bon, hein, ceux qui n'étaient pas là, dommage pour eux, mais surtout ce que je note c'est la mise en avant de nos producteurs et ça c'est important aussi. Merci.
Merci Aurore.
Non, par rapport à ce que vous avez mentionné sur les actions qui concernent la transition écologique, dans quel cadre vous souhaiteriez être sollicité ?
Non, je ne fais pas partie de ce groupe-là. Je ne fais pas partie de ce groupe-là, donc j'ai pas exactement. En fait, à la suite, à la fin un peu de leur parcours, on est sur la dernière année là. Ils aimeraient s'intéresser effectivement à la manière dont le PCAET donné à connaissance de la population et comment la population peut s'impliquer un peu dans la réflexion sur le PCAET. Voilà leur question, je crois.
Est-ce que le Codevia a connaissance de la carte qui a été élaborée par les services de la communauté de communes et que nous avons baptisée Transition en action ?
Non, je ne pense pas. En fait, sur la question des transitions, finalement, elle apparaît tout d'un coup dans un groupe de travail, mais pour l'instant, elle n'a pas été trop au cœur de notre réflexion générale, tout simplement parce qu'il a fallu faire des choix. Elle est importante pour nous et chacun d'entre nous, mais on n'a pas travaillé sur cette question au cours de ce mandat-là.
Ok. Mais je vous ferai quand même parvenir... quelques exemplaires ou la version numérique du travail qui a été fait et formalisé sous forme d'une carte du territoire localisant nos 19 communes et la mention de quelques actions de transition qui sont en cours, engagées en cours, dont certaines sont portées que par des citoyens.
Ben, écoutez, je suis en plénière tout à l'heure là, et j'en ferai part au groupe de cette carte-là, parce qu'effectivement, elle nous intéresse. On a eu l'occasion
de demander aux autres membres s'ils la connaissent déjà.
Oui, déjà. Voilà, c'est ça. Ça fait.
Excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, on a eu l'occasion de rencontrer le CODEF du pays de l'Ifré également. Alors, mais ça, ce sera sur les actions 2023, puisque c'était au mois de janvier. Ça faisait un moment qu'on essayait de les rencontrer. Et eux, ils ont beaucoup plus d'actions sur ce domaine-là. Ils ont fait ces choix-là, quoi. Ça nous a évidemment beaucoup intéressés. Mais la question des producteurs, en fait, rejoint aussi celle-là. Hein, c'est-à-dire que les producteurs locaux, bio, c'est des problématiques qui sont un peu les mêmes. Lors des différents événements, donc il y en a eu 3, dont un en 2023, là, les producteurs étaient très investis dans la démarche, à travers le repas, à travers la fourniture de produits, mais même à la présence. Ils sont venus en force aussi dans les débats. Et donc, on voit bien qu'il y a là vraiment quelque chose d'intéressant à creuser.
Très bien. D'autres remarques ou... Gérard ?
Oui, je réitère ma question que je vous avais posée déjà il y a un moment. La commune de Sens n'est pas représentée au CODEV. J'avais fait déjà une demande pour que vous puissiez vous présenter à un conseil municipal.
Alors, je crois qu'il y a eu effectivement un loupé au mois de l'été dernier, hein, parce qu'en fait, on essaye aussi de répartir les choses. On peut essayer de faire ça assez rapidement. Ce serait bien qu'on passe pas l'été alors. On peut le faire avant l'été.
Peut-être difficile avant l'été, mais enfin, on a quand même des gens intéressés justement à ce niveau-là, au niveau de la science de montagne, parce qu'il y a quand même pas mal d'exploitations bio, etc.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça serait quand même intéressant et de pouvoir motiver certaines personnes pour rentrer dans le collège seulement.
Ça, entendu, merci.
D'autres remarques ou questions ? Lionel.
Alors juste une petite intervention sur la saisine là, toute récente sur la mise en place de la ligne régulière. En fait, quand les agents ont interrogé, on est sur un délai très court parce qu'on voudrait que ça passe en bureau communautaire le 30 juin. Et après, on va avoir un timing assez serré pour une mise en place de la ligne régulière. Mais quand les agents ont interrogé, je me suis dit que sur un projet aussi important, aussi structurant, même si on était sur un timing assez court, il fallait absolument qu'il y ait une saisine du Codevia. Après, on est conscient hein, qu'on vous demande de faire un retour sur un temps très court. On est parti sur l'idée que ce que vous pourrez nous apporter comme contribution sera toujours plus utile que de ne pas vous avoir sollicité.
Oui, tout à fait. Alors, le CODEV, en fait, il travaille de temps en temps sur des sujets qui sont un peu théoriques et un peu éloignés des réalités des citoyens de base. C'est vrai, quand on va à l'évaluation du SCOT, c'est des choses qui font peur à certains. Par contre, quand on est sur un projet comme celui-là, là, tout le monde se sent concerné parce que c'est simple, c'est concret, et puis ça touche la vie des gens. C'est d'autant plus important pour nous d'être saisis pour des sujets aussi de cet ordre-là. Celui-là, on présente ce soir, j'ai rencontré Juliette Moreau, et on va présenter un petit résumé là, ce soir. Le problème, c'est que d'abord, les communes du Nord sont peu représentées, Sens, Andouillé, etc. Gare, moi je suis tout seul. Donc en fait, on a peu de citoyens finalement de ces territoires-là qui sont les premiers concernés par la question. Mais vous nous avez proposé de nous rencontrer éventuellement la semaine prochaine. Donc on va essayer de créer un petit groupe. Et avec ce qu'on aura glané ce soir et ce qu'on pourra construire, peut-être qu'on pourra faire quelque chose, quoi, avoir un apport à la réflexion.
Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir présenter le rapport d'activité 2022 du Codevia. Cette présentation illustre parfaitement l'action qui est menée par l'ensemble des membres du Codevia, dans les différents groupes de travail que vous poursuivez. C'était en effet, vous l'avez rappelé, une volonté des élus de la communauté de communes qu'un conseil de développement du territoire soit... pérennisé, j'allais dire, parce qu'on l'avait déjà mis en place depuis 2017, et soit confirmé et se mette en place. Nous savons que cela prend de votre temps, de chacune et chacun d'entre vous, mais nous avons aussi le plaisir de voir que vous apportez vos idées, vous analysez les documents que l'on vous propose et puis vous faites également des suggestions. Et c'est un élément important du bon fonctionnement d'un territoire comme le nôtre. 19 communes, donc les élus des communes, bien sûr, les maires de toutes les communes, les élus des communes, et aussi les élus communautaires, et aussi des citoyens du territoire qui s'impliquent dans ce type de réflexion et d'apport au bénéfice de l'ensemble des habitants du territoire. Un grand merci à toutes et tous pour votre implication. Au nom du Conseil communautaire, nous vous laissons transmettre ces remerciements. Et naturellement, nous restons à votre écoute pour tous les temps d'échange qui vous sont nécessaires. Je sais que début juillet, je dois rencontrer, comme je rencontre régulièrement, tous les trimestres à peu près, des représentants du Codevia pour un point d'échange sur les dossiers en cours. Voilà. 5 juillet. Oui. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation. Sachant que l'année qui vient et les années qui viennent, les sujets ne vont pas manquer. Vous avez évoqué le SCOT, où c'est un peu ardu parfois, mais la révision du SCOT, l'étude de révision du SCOT est engagée. Donc à un moment ou à un autre, vous serez dans la boucle. Vous participez peut-être déjà, pour un certain nombre d'entre vous, aux réunions d'échange qui peut y avoir avec l'ensemble avec des élus des communes du Pays de Rennes. Oui. Aux deux réunions. Il y en a une prochaine la semaine prochaine à l'IFRE. Ah bon? Bon. C'est pas trop tard, hein, pour vous le rappeler. En tout cas, merci.
Merci.
Bonne continuation. Josette Masson est arrivée. Sophie Ledrian-Kennectu est arrivée. Et voilà. Non, mais c'était. Nous étions informés. Juste à préciser à Sophie qu'elle porte le pouvoir de Marie-Edith Massé. On prend la suite de l'ordre du jour. Peut-être avant de prendre la suite des points inscrits, il y a également la validation du procès-verbal de la séance de fin mars. Sur le procès-verbal de la séance du 28 mars, y aurait-il des remarques? Pas de remarques? Nous validons le procès-verbal de la séance du 28 mars. Et là, je passe la parole à Jean-Luc pour les points RH 2, 3 et 4.
Oui, trois points RH ce soir. Le premier concerne quelque chose qu'on voit régulièrement, qui est la revalorisation indiciaire du personnel contractuel, qui n'est pas mécanique à la différence du personnel titulaire. Donc, régulièrement par rapport au décret 2021-19 du 24 décembre 2021, donc, qui modifie l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, ben, il nous faut finalement, c'est automatique pour les titulaires, mais par contre, il faut passer par une délibération pour les contractuels. Ça nous semble logique pour respecter la parité et l'égalité de traitement entre les agents qui soient titulaires et contractuels. Mais il nous faut une délibération. C'est ce qui vous est proposé ce soir, je dirais, pour 6 agents du pôle petite enfance concernés, sachant que, et vous le savez, l'actualité en parle aujourd'hui fortement, c'est que ça n'a aucun impact sur la rémunération des personnels parce que l'ensemble des nouveaux indices les positionnent de toute façon en dessous du SMIC. Donc, de toute façon, ils sont repositionnés au niveau du SMIC. Donc, il n'y a pas d'impact financier. Par contre, pour une parité et une égalité, il est proposé de mettre pour ces 6 agents-là, dont vous avez la liste juste après, enfin, dont vous avez le positionnement juste après, cette évolution indiciaire du personnel contractuel.
Merci Jean-Luc. Avez-vous des demandes de précision? Je peux mettre au vote en vous proposant de valider ces revalorisations et de m'autoriser à signer les avenants au contrat concerné. Qui ne prend pas part au vote? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le point suivant, Jean-Luc.
Le point suivant concerne une modification du tableau des effectifs. Donc, on a revu complètement le tableau des effectifs. Néanmoins, quand on procède d'une embauche suite à un départ, c'est ce qui s'est passé sur le poste du chargé de l'environnement et de la biodiversité sur le grade qui était aujourd'hui sur le grade d'attaché territorial, qui est parti le 1er mars 2023. Donc, on a lancé une procédure de recrutement. Et il s'avère qu'on souhaite recruter un poste qui n'est pas dans la filière administrative, mais dans la filière technique, puisqu'il a un niveau d'ingénieur. Et donc, ce qu'il est proposé, c'est qu'en plus de maintenir pour ce poste-là, je dirais, la filière administrative, de rajouter la possibilité d'accueillir quelqu'un qui est de la filière technique, donc soit au grade mini de technicien, soit au grade maxi d'ingénieur, avec un grade ciblé des trois grades de niveau B et du premier grade de niveau A. Ceci va nous permettre d'accueillir l'ingénieur, qui est un agent fonctionnaire de l'État qui vient d'une préfecture proche. Donc, c'est pour ça qu'on propose ça au poste ce soir. Il devrait arriver au mois de juillet.
Merci. Une demande de précision ? Bien. Je propose donc au Conseil de modifier le tableau des effectifs pour ce poste de chargé de mission environnement et biodiversité et d'indiquer grade mini rédacteur ou technicien, grade maxi attaché ou ingénieur, et les grades ciblés, les trois grades de catégorie B et le premier grade de catégorie A, pour modifier le tableau des effectifs en ce sens. Qui ne prend pas part au vote ? Qui est opposé ? Qui s'abstient ? Merci. Point 4, modification, création d'un poste d'agent d'entretien, Jean-Luc.
Donc, évidemment, il y a un besoin permanent d'entretien de ménage au local émergence à Andouillé-Neuville, donc à la hauteur de 8 heures hebdomadaires. Nous avions recouru au service d'une entreprise d'insertion pour l'emploi et l'entretien est assuré par un agent. Et donc, depuis, nous avions, pour cette même agent, nous étions passés en contrat à durée déterminée depuis plusieurs mois. Nous arrivons au bout de ce processus et donc il nous faut aujourd'hui trouver une solution, et la solution qui est proposée ce soir, c'est de créer un poste permanent d'agent de entretien ouvert sur les grades adjoint technique principal de première classe catégorie C à temps non complet, 8/35e, donc c'est 8 heures, à compter du 1er août 2023. Je dois dire, et on est bien placé ici puisqu'on est à Andouillé-Neuville, de dire que c'est un agent qui travaille aussi sous contrôle d'Aurore à la mairie d'Andouillé-Neuville, donc ça lui fera, je dirais, un complément par rapport à ce qu'elle fait déjà. Voilà. Sans cela, nous n'avions aucune solution pour la garder, quelqu'un qui fait très bien son travail, donc c'est pour ça qu'on propose cette création.
Merci. Isabelle ?
Alors, moi, je comprends très bien la création, et puis, par contre, quand le pôle communautaire va être fait et que tous les agents vont être assemblés, peut-être qu'à l'émergence, il n'y aura plus de besoin. J'allais dire, c'est facile à dire, hein, mais cette personne, est-ce qu'elle irait sur le pôle communautaire pour faire l'entretien ?
Donc, sur le pôle communautaire, non, parce que je pense, sous contrôle d'Aurore, qui la connaît mieux que moi,
non,
elle a un problème de moyens de transport.
Ouais, elle n'est pas
mobile. Par contre, nous avons aussi des besoins localement, potentiellement à Saint-Aubin, donc, qui sont à proximité. Donc, on a réfléchi dans ce sens. Donc, c'est ça la réponse. Elle n'ira pas au pôle communautaire, ça c'est sûr, sous contrôle d'Aurore, mais de Montreuil-le-Gard. Mais néanmoins, sur le secteur, pour 8 heures, on devrait trouver quoi ? Sachant qu'elle fait aussi, je dirais, les parties communes du pôle émergence, qui resteront.
Oui, tout à fait. Pas d'autres demandes de précision ? Je peux soumettre à la validation du Conseil pour donc la création de ce poste pour 8/35e à compter du 1er août 2023. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est opposé ? Merci. Point 5, DIA sur Confort-Landes-Meulles, Pascal.
Oui, donc il s'agit d'un local exploité aujourd'hui par la Compagnie des Ateliers, dont l'appellation commerciale est MAG Rennes. Ce local se trouve sur une parcelle d'une superficie totale de 4253 m². Le vendeur, c'est la SCI La Noé Colombier, domiciliée à Meulles. L'acheteur, ce serait vraisemblablement le locataire Magraine qui s'était engagé à acquérir le bien après 6 ans de location, à savoir le 30 juin 2023. Donc le montant de la vente est de 600 000 euros, plus les frais de négociation 28 200 euros et les frais d'acte notarié. Donc on vous précisait que normalement en zone UA2, il ne peut y avoir d'accueil de clientèle particulière. Cette société accueille à la fois la clientèle particulière et professionnelle. Ça n'est pas un problème en soi aujourd'hui, puisque en fait elle bénéficie de l'héritage du statut du local au moment où elle a pris le local. Par contre, nous devrons être vigilants si jamais il y avait une demande d'extension du bâtiment.
Ok, merci. C'est bon pour tout le monde ? Donc pas de préemption. C'est vrai qu'il faut le voter. On vote toujours un peu à l'envers. Je suis toujours un peu... Donc, proposition de ne pas préempter. Y a-t-il des oppositions ? D'abord, ceux qui ne souhaitent pas participer à cette décision, ceux qui sont opposés à cette proposition, ceux qui s'abstiennent. Très bien. La suivante.
Donc, la suivante concerne un local qui se situe dans la ZA de Confortland à Meules, c'est la DIA AD137. Donc, sur une parcelle d'une superficie de 3707 m², le vendeur, c'est la SCI Côte-Rôtie, domicilié 12 rue de Janzé, mais 35500, je ne sais pas où c'est. Saint-Vitré, pardon Valérie. Et l'acquéreur, c'est la compagnie financière de l'hippodrome. Le prix de vente, 1 900 000, plus les frais de négociation, 60 000 euros, et les frais d'acte notarié. Bon, il faut savoir que cette vente s'est déjà faite dans l'autre sens, il y a quelques mois. Donc, c'est sûrement une opération financière derrière. Mais voilà, ce local appartenait bien à la compagnie financière de l'hippodrome, qui l'avait vendu à la SCI Côte-Rôtie, qui elle-même la lui revend.
Et puis, il y a quelques mois déjà, Biocop.
Et Biocop avant, bien sûr.
Donc, proposition de ne pas préempter. Tout le monde participe au vote. Qui n'est pas d'accord avec cette proposition ? Qui souhaite s'abstenir ? Très bien, merci. Point 7, convention de partenariat avec la région Bretagne sur les politiques de développement économique.
Donc, il convient de vous rappeler que les lois MAPTAM et NOTRe ont défini les compétences dans le domaine du développement économique notamment. Ces lois posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire. Elle pose également le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise. Elle confirme la place spécifique de l'échelon métropolitain. Elle prévoit la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des interventions de la région et des EPCI hors de leur champ exclusif de compétences. Et elle confirme le caractère prescriptif du SRDEII, autrement dit le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Suite au renouvellement de l'Assemblée en 2021, Assemblée du Conseil régional, donc la région a engagé l'actualisation de son schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, afin de proposer une vision transversale des enjeux liés au développement économique, aux compétences humaines, à l'orientation et la formation, à la recherche et à l'enseignement supérieur. Décision a été prise de produire une stratégie unifiée intitulée la stratégie régionale des transitions économiques sociales, le SRTES. Donc, qui regroupe, je rappelle, le SRDE2I, le CPRDFOP et le SRESR. Afin de poursuivre la dynamique partenariale entre la région et les EPCI bretons et de décliner territorialement les orientations stratégiques en matière de développement économique renouvelées au sein de la SRTES, les échanges avec les EPCI sont poursuivis jusqu'au 30 juin 2023. Ces échanges ont acté la poursuite et l'approfondissement d'une dynamique déjà bien installée. Ils confirment la volonté de faire du lien entre les régions et EPCI le vecteur essentiel de
de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques de développement économique. Donc, la présente convention a pour objet d'articuler de manière cohérente les politiques de la région Bretagne et de la communauté de communes Val d'Ille-aux-Bignées dans le domaine du développement économique, dans l'intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en compatibilité avec les orientations de la SRTES. D'assurer la complémentarité des dispositifs d'aide aux entreprises à déployer sur le territoire communautaire et de fixer les règles d'intervention de la région et de l'intercommunalité, de poursuivre le déploiement d'un service public de l'accompagnement des entreprises, autrement dit SPAE, sur le territoire communautaire. Le projet de convention a été joint en annexe. Il convient de préciser que dans le cadre de cette convention, il sera déployé à compter du 1er juillet 2023, mais je vous l'ai dit déjà lors du précédent conseil, un nouveau dispositif Pass Commerce et Artisanat cofinancé par la région.
Merci. Des remarques ou des demandes de complément ? De compréhension, hein, parce qu'on va pas réécrire. C'est bon pour tout le monde. Bien. Donc, eh bien, je propose au Conseil d'approuver les termes de la convention de partenariat avec la région Bretagne sur les politiques de développement économique, que Pascal vient de nous rappeler, m'autoriser à signer la convention de partenariat avec la région Bretagne sur les politiques de développement économique, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé à ceci ? Qui souhaite s'abstenir ? En vous remerciant. Le point 8, taxe de séjour 2024. Ginette, s'il te plaît.
Oui, la taxe de séjour 2024, donc depuis le 1er janvier 2021, donc il avait été acté donc une mise en place de la taxe de séjour sur notre territoire. Donc sont perçus sur, bon, nous on n'a pas de palace encore, mais ça va peut-être venir, sur tous les meublés de vacances, les villages de vacances, on n'en a pas non plus, les chambres d'hôtes, les emplacements de terrain de camping et non, on n'a pas de port de plaisance non plus. Donc, en fin de compte, cette taxe, elle est applicable à toute personne qui vient sur notre territoire. La taxe de séjour, elle est validée en conseil communautaire et le département prend 10% en plus donc, de cette taxe de séjour. Donc, il y a une taxe additionnelle donc, de la part du département. Donc, bien sûr, il y a des catégories parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Par contre, pour ceux qui ne se déclarent pas, qui ne veulent pas dire combien ils ont d'étoiles, ou donc le tarif, il est des 0,70 centimes pour le Val d'Ille par personne pour le prix de la nuitée. Donc la taxe additionnelle, voilà, départementale, s'ajoute à ces tarifs. Sont exemptés de la taxe de séjour donc les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune et les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. Les taxes sont perçues donc trois fois dans l'année. Le 31 mai pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril. Le 30 septembre pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août. Et 31 janvier pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre.
Merci. Des questions ? Alain ?
Oui, sont exclus les saisonniers habitant dans la commune, mais si on a décisionné sur la base nautique, qui habite à Montreuil-sur-Isle.
Bah, ils rentrent à Montreuil-sur-Isle déjà, ceux-là, mais enfin, en principe, les saisonniers...
Non, mais c'est le cas d'école, quoi.
Oui, c'est le cas d'école. Bah, on ne l'a pas, ce cas d'école. Pas te répondre, moi. Non, pour l'instant, on ne l'a pas. Effectivement, la mise à disposition du mobilhome, le fameux mobilhome qu'on avait racheté, il travaille sur la commune, donc il ne paye pas.
Dans l'hypothèse où des saisonniers habiteraient sur une autre commune, comment ça se passe ? C'est ça la question, c'est tout.
Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est sur la commune qu'ils ne payent pas.
Pardon ?
C'est quand ils travaillent sur la commune. Le titulaire d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune.
Donc ils peuvent habiter Montreuil-sur-Isle ou Gare, okay,
voilà, okay. Okay, ou de Marseille, il ne payera pas de taxe de séjour parce qu'il habite sur la commune du lieu de résidence.
Il travaille sur la commune. Non, il faut peut-être reformuler, Ginette. Sont exemptés les titulaires d'un contrat de travail saisonnier qui travaillent sur la commune.
Oui. Donc sur le
employé.
Lieu. Employé. Voilà, tout à fait.
Quel que soit leur lieu de résidence.
Tout à fait.
Bon, ben là, c'est plus précis pour tout le monde, là. Comme quoi, il fallait le repréciser.
Est-ce que ça ne serait pas plus logique qu'ils soient employés sur la communauté de communes plutôt que sur la commune même? Enfin, comme on est, c'est une décision communautaire, est-ce que ce ne serait pas logique de mettre l'échelon si celui qui trouve un logement temporaire à Andouillé-Neuville et qui travaille à Saint-Aubin, est-ce qu'il doit payer la taxe?
Là, c'est contrat de travail saisonnier employé dans la commune.
Je pense que, comme c'est une disposition du CGCT, c'est qu'on n'a pas la main dessus. C'est prévu, hein. Si c'est écrit la commune, sinon ce serait écrit la commune ou le PCI.
Ou le PCI.
Okay. Donc on reste conforme aux dispositions générales.
Oui.
Je peux mettre au vote ? Donc je propose au Conseil de valider ce règlement et les tarifs 2024 de la taxe de séjour communautaire. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Donc on prend la délibération avant le 30 juin pour pouvoir communiquer sans tarder aux professionnels qui préparent déjà leur saison prochaine, l'année prochaine.
Tout à fait. On fait une commission le 19 juin, lundi 19 juin. Et donc, à partir du moment où là, c'est validé, on va déjà aussi leur en parler, okay. Puisque donc, on avait acté donc, la mise en place d'un logiciel sur la taxe de séjour. Donc, toutes ces explications seront données, seront fournies le 19 juin.
Okay.
Il n'y a pas d'augmentation, mais on est obligé de le passer.
Oui, parce que s'il n'y a pas de tarif validé, il n'y a pas de tarif.
Et vu qu'il y a la taxe additionnelle donc, du département de 10%, on est obligé de le passer, comme tous les ans.
On peut poursuivre sur le point 9. Un avenant à la convention de réalisation des travaux de giratoire aux Olivettes à Melay sur la RD 82. Lionel,
oui,
tu peux reprendre les éléments qui ont bougé.
Oui, alors du coup, il s'agit d'un avenant à la convention de réalisation des travaux. La convention de réalisation de travaux, nous l'avions votée en conseil communautaire le 11 mai 2021, mais le projet a assez fortement évolué depuis, en fonction de nos demandes et puis de l'évolution du contexte des travaux nécessaires. En fait, l'idée de départ, c'était le conseil départemental qui, dans le cadre d'une opération de sécurisation du carrefour de la RD 82 et de l'avenue des Tilleuls à Melesse, avait proposé de remplacer le carrefour existant par un giratoire à quatre branches desservant donc la RD 82 du nord vers le sud et puis les accès aux zones des Olivettes et des Landelles et aussi aux zones d'habitat de Melesse. Du coup, il y avait une convention à passer entre la communauté de communes Val-d'Aubigné et la commune de Melesse et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Sur la convention que nous avions passée, nous étions sur un coût de 590 000 euros hors taxe. Mais à l'époque, il ne s'agissait de faire qu'un simple giratoire pas d'autres équipements. La convention avait prévu un plan de financement à 50% la charge du département, 275 000 euros, et les deux autres, l'autre moitié était partagée entre la commune et la communauté de communes. Les évolutions du projet tiennent en partie sur des travaux nécessaires à l'assainissement pluvial du secteur, avec la création d'une d'une comment on appelle ça déjà, un bassin de rétention d'eau. La création, à la demande de la communauté de communes, dans le cadre de sa compétence, la création d'une aire de covoiturage à proximité directe du giratoire sur un délaissé de domaine public appartenant à la communauté de communes. Et la réfection de revêtements de chaussée entre le giratoire de l'Épinette et le futur giratoire. Ça a des incidences financières, puisque désormais nous sommes sur des travaux de terrassement, d'assainissement des chaussées qui sont nécessaires de 600 000 euros, l'assainissement pluvial 210 000 euros, l'aire de covoiturage 250 000 euros et la réfection de la RD 82 377 000 euros. Donc nous sommes désormais à 1 237 000 euros. Et avec une répartition des travaux que vous avez, donc la part prévisionnelle du département, 300 000 pour le giratoire, donc la moitié, l'autre moitié à partager entre la commune et la communauté de communes. Ça, c'est dans la mesure où on permet l'accès à deux zones d'activité pour la communauté de communes et la part pour la commune qui est liée à la desserte d'habitat. Les travaux d'assainissement pluvial, c'est la même chose, 105 000 la part pour le département et puis l'autre moitié à partager entre la communauté de communes et la commune. Et puis pour les travaux de l'aire de covoiturage, on a là aussi le département qui prend la moitié à sa charge. Et là, par contre, on n'a que la communauté de communes qui intervient sur l'autre moitié et pas la commune, parce que nous sommes sur une compétence de la communauté de communes. Et les travaux de réfection de la RD 82 entre les deux giratoires qui sont à la charge intégrale du département. Voilà.
Merci. Avez-vous des précisions souhaitées ? Bien, je soumets donc à votre validation. Pardon, Isabelle.
Juste le calendrier en fait de ces travaux et pour savoir quand est-ce que ça va être budgétisé en fait.
Alors là, je suis.
Les travaux devraient démarrer à l'automne, dès fin septembre, pour une durée de 6 mois, jusqu'au printemps, début du printemps. Le département assure l'avance du paiement de l'ensemble des travaux et demandera à la communauté de communes et à la commune de reverser leur quote-part après l'achèvement des travaux.
Budget 2024.
Donc, pour ce qui concerne la communauté de communes, budget 2024 et la commune aussi d'ailleurs. C'est bien précisé de mémoire dans le texte de convention. Les travaux se feront en circulation alternée, sauf la partie finale, c'est-à-dire les réalisations des enrobés, qui se fera de nuit. Sur une dizaine, enfin, ils ont prévu aujourd'hui deux petites semaines, une semaine et peut-être un peu plus.
Et on avait parlé d'une piste cyclable.
Oui. On a parlé d'une piste cyclable.
Alors, pour la piste cyclable, il s'agit de la liaison cyclable qui pourrait aller de Melès à Montreuil-le-Gard, mais qui intéresse aussi les habitants de la partie nord de Melès. En fait, il y a une étude là, qui va être menée par le conseil départemental sur la liaison Saint-Grégoire-Melès. Mais on avait réussi à obtenir avec Claude qu'il y ait une inscription de l'étude jusqu'à Montreuil-le-Gard. Financement assuré par le département à 100% de Saint-Grégoire à Melès et une interrogation sur les travaux éventuels entre Melès et Montreuil-le-Gard. Le pacte des mobilités 2025, a priori, donc ce serait peut-être un cofinancement.
Moi, je suis un peu étonnée que la piste cyclable ne soit pas prévue dans ces travaux-là, parce que si c'est pour casser, pour refaire ou pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas faire passer une piste cyclable, je...
Alors, De mémoire sur le giratoire, c'est pas indiqué ici, mais c'est sans doute une des raisons aussi de l'augmentation des coûts. On avait demandé au département de prévoir sur la partie ouest du giratoire du cyclable.
Donc l'emplacement du passage de la future piste cyclable, elle est bien intégrée côté ouest, en effet, de la création de ce giratoire. Et de mémoire, il me semble aussi côté nord.
Oui. Oui.
Donc sur deux côtés.
Je pense qu'il faut être attentif.
Oui. Voilà. Mais bon. Elle est bien prévue. Elle ne sera pas matérialisée tout de suite, mais les emplacements sont prévus, ainsi que dans la création des îlots centraux sur la RD 82, la réalisation de refuges, c'est-à-dire permettant aux piétons de traverser, même si c'est hors agglomération, et donc la bande zébrée du passage piéton ne pourra pas être dessinée ou peinte. Mais ils prévoient la réalisation d'espaces de refuge sur les îlots centraux, sur les deux axes sud et nord.
Il y a une piste cyclable qui est prévue tout le long de la RD.
Aujourd'hui, alors Lionel l'a dit, le département va rapidement engager l'étude de la réalisation de cette piste cyclable depuis Saint-Grégoire jusque Melesse, et on a obtenu que l'étude se fasse également tout de suite jusque Montreuil-le-Gard. C'est important, ce qu'on a pu réclamer et obtenir, c'est que s'il y a des réserves foncières à prévoir pour les réalisations futures, elles puissent être prévues le plus longtemps possible, le plus en amont possible. Et donc la question c'était
Pour moi, une piste cyclable, si elle est, oui, elle va être prévue.
Elle devrait...
je vois l'argent qui est mis pour des revêtements spécifiques et tout, j'espère que voilà.
Oui.
Mais je pense que le département est assez.
La piste cyclable va être étudiée en site propre, donc en bordure de la RD 82, mais en site propre pour la piste cyclable.
Il a été pris en compte aussi, il y a un sentier là, qui arrive de Melesse et qui arrivera au niveau du giratoire. Et ça a été intégré aussi dans la réflexion du département.
Dernières infos un peu en off, c'est que le département finalise le choix du bureau d'études pour lancer cette étude justement. Voilà. Il faut commencer par ça. Et je pense que l'étude, nous pourrions, dans un an, on devrait pouvoir commencer à en parler un peu, au moins sur une première esquisse. J'ai pas fait voter. Hein. Donc, je propose au Conseil communautaire de valider cet avenant et de m'autoriser à le signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Qui ne prend pas part à ce vote, Gaël Mestri ne prend pas part à ce vote. Qui est opposé, qui s'abstient, en vous remerciant. Cession à titre onéreux de deux vélos assistance électrique. On n'est pas dans les mêmes montants là.
Non, absolument pas. Vous le savez, hein, depuis 2012, la communauté de communes a lancé une politique de location de vélos VAE en longue durée aux habitants du territoire. On a fait évoluer en 2022 les conditions d'accès à ce service de location. On a renouvelé également la flotte de vélos et on se retrouve en 2023 avec des vélos qui nous restent au siège, des vélos qui sont de la première génération ou la deuxième génération, en tout cas des vélos de 2013, qui sont complètement HS et qui ne sont pas réparables. On l'avait déjà fait par le passé. On avait fait une cession à l'euro symbolique en 2019 à l'association Transport Mobilité de Melesse. Donc on vous propose pour deux vélos là, qui datent de 2013, et il y en a un dont la transmission est HS et ça n'est pas remplaçable, et l'autre, le moteur, est HS et ça n'est pas remplaçable non plus. L'avantage de l'association de transport mobilité de Melesse, c'est que ça leur sert dans leur banque d'organes pour d'autres vélos qu'ils ont. Et pour nous, l'avantage, c'est qu'on sait où ils vont. Ils partent auprès de cette association et au moins, on sait que les batteries ne partiront pas dans la nature ou ailleurs. Donc, il vous est proposé donc, cette session pour l'euro symbolique, pour 2 euros symboliques, puisqu'il y a 2 euros
chacun, pour chaque vélo. C'est bon pour tout le monde ? C'est 2 euros au total. Soumis à votre validation ?
Oui, juste, moi, je voudrais faire une remarque. En fait, ça a une durée de vie de 10 ans, un vélo électrique. C'est dommage.
Des premiers vélos électriques.
Et les prochains vont durer encore moins longtemps. Mais...
Ouais. Et les prochains, ils vont durer plus longtemps. Yannick a l'air sûr de lui.
Bon, l'avantage, alors on est un peu en dehors du sujet, mais l'avantage quand même d'avoir fait une convention avec UGAP et d'avoir des vélos arcade, c'est on prend les mêmes vélos à chaque fois. Donc au moins on aura une flotte uniforme. Là le problème c'est qu'on faisait des achats qui étaient des one shot à chaque fois et on avait une flotte complètement disparate.
Oui, c'est vrai.
Donc au moins avec l'UGAP il y a un cahier des charges, on a des vélos qui sont sans doute, alors sur la durabilité je ne sais pas, mais en tout cas sur la qualité des vélos, je pense qu'on a franchi un cap quand même depuis qu'il y a cette convention.
C'est bon ? Peut me soumettre à validation donc la cession de ces deux vélos 2013 en dysfonctionnement à hauteur de 1 euro chacun, 2 euros symboliques à l'association Transport Mobilité. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 11, avis d'enquête publique.
Oui.
Daniel, s'il te plaît.
Afin de respecter les objectifs fixés par la directive cadre européenne sur l'eau, Eau-et-Vilaine souhaite mettre en œuvre des actions de restauration des milieux aquatiques sur le territoire de l'unité gestion Vilaine-Ouest. Le territoire de l'unité Ouest compte 36 masses d'eau et 6 masses d'eau plan d'eau. Seuls 5% de ces masses d'eau sont en bon état écologique. Le non-respect des objectifs fixés par la directive cadre européenne sur l'eau est principalement lié à la qualité hydromorphologique des cours d'eau. En effet, le linéaire total de cours d'eau est de 2526 km. Au regard du diagnostic réalisé sur la moitié d'entre eux, plus de 80% de ces cours d'eau ont un état hydromorphologique dégradé. Pour atteindre les objectifs de bon état écologique, Eau-et-Vilaine souhaite mettre en œuvre des travaux de restauration ambitieux des milieux aquatiques, dont le but est d'obtenir des résultats significatifs sur la qualité physiochimique et biologique de l'eau, et ou sur la quantité d'eau disponible dans les hydrosystèmes. Il se concentre plus prioritairement sur les cours d'eau de tête de bassin versant, petit chevelu, qui joue un rôle important en tant que zone de frayère pour le peuplement piscicole, mais également vis-à-vis de la qualité de l'eau, zone d'épuration et de la gestion des débits, zone de stockage en période de crue et de restitution en période d'étiage. Les travaux de restauration des milieux aquatiques sont financés dans le cadre de ce contrat par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Bretagne, les conseils départementaux d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, le SMG O35 et les EPCI situés sur le territoire de l'unité Ouest. Ils sont mis en œuvre avec l'accord des propriétaires riverains et des exploitants agricoles. Afin de pouvoir allouer des fonds publics sur des propriétés privées, Eau-et-Vilaine a sollicité l'ouverture d'une enquête publique préalable à une déclaration d'intérêt général. Un diaporama de présentation de DG est fourni en annexe. Une enquête publique a été ouverte du 9 mai 2023, 9h, au 9 juin 2023, 12h. Cette enquête concerne l'ensemble des communes situées sur le territoire d'intervention de l'unité Ouest, soit 105 communes sur le département d'Ille-et-Vilaine et 7 communes sur le département des Côtes d'Armor. Les documents soumis à l'enquête sont consultables via le site. Sur le territoire, une permanence est également prévue le 9 juin 2023 en mairie de Saint-Aubin-de-Bigné. Conformément au courrier de la préfecture en date du 19 avril 2023 annexé, la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné ainsi que ses communes couvertes par le périmètre de l'unité ouest sont invitées à émettre un avis sur ces travaux.
Et l'avis proposé est d'émettre un avis favorable.
Tout à fait.
Avez-vous des demandes de précision ? Isabelle ?
Alors moi, je n'ai pas eu le temps de lire l'enquête en gros. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? C'est la question piège. Je vais le présenter en conseil municipal, c'est pour ça si j'ai les réponses.
C'est-à-dire qu'on utilise des fonds publics sur des terrains privés. Donc c'est pour ça, c'est des financements qui sont publics et qui sont mis sur des terrains privés.
Donc, en fait, l'avis favorable, c'est juste dire on est d'accord pour que les fonds aillent sur des...
Voilà, tout à fait.
OK, merci.
Que des travaux d'amélioration de la qualité de l'eau soient entrepris en domaine privé et puissent être payés par des fonds publics. Parce que l'objectif principal, c'est la reconquête de la qualité de l'eau.
Alors, quand on parle de propriété privée, c'est quoi, les propriétés privées ? Parce que c'est les entreprises...
Non, c'est tous les riverains où les cours d'eau passent, les bords de rivière. Les étangs, oui, tout à fait. Et il y a des terrains communaux aussi, bien sûr.
Ça convient pour tout le monde d'émettre un avis favorable sur cette enquête publique sur la mise en place d'une DIG, d'une déclaration d'intérêt général. Je crois que le titre résume un peu la réponse qu'on vient de faire. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est contre ? Qui souhaite s'abstenir ? Merci. Une abstention. Donc, validé, merci. Le point 12, marché de construction de la salle Omnisport à Saint-Symphorien, une demande de sous-traitance du lot 2 grosses œuvres. Donc Pascal n'étant pas présent, donc l'entreprise SAS Angevin, agence de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, attributaire du lot numéro 2 Gros œuvres, pour un montant total de 562 462 euros en hors-taxe, a déposé une demande d'agrément de sous-traitance avec le paiement direct au profit de l'entreprise Sol Laser Béton, entreprise dont le siège est à Verne-sur-Seiche, pour lui confier la réalisation du dallage pour un montant de 6 206 euros hors taxe, prix ferme. Et une autre partie à l'entreprise MB Entreprise, dont le siège est à Changé, en vue de lui confier la réalisation de maçonnerie et d'enduit ciment pour un montant de 27 515 euros hors taxe, prix ferme. Ces deux entreprises ont transmis à la communauté de communes les différents documents administratifs obligatoires qui permettent de valider ces deux demandes de sous-traitance. Je propose au vote. Donc, je propose au Conseil de valider l'acceptation de ces deux sous-traitances et d'agréer les conditions de paiement pour les montants fermes pour l'un et l'autre, l'une et l'autre. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est opposé ? Qui s'abstient ? Merci.
Juste, Claude, est-ce que les travaux ont commencé ou...
Alors, je vais laisser Yves répondre.
Oui, c'est sûr.
Alors oui, les travaux ont commencé, hein, de juillet déjà plus d'un mois. Hein. Ça se déroule très bien. Jusqu'à présent, ça se déroule très bien. On a eu une petite frayeur une fois qui s'est réglée en moins d'une demi-journée. Donc on n'a pas pris de retard pour le moment. On n'ose pas dire qu'on a pris de l'avance, mais presque. Les conditions de travail sont très bonnes. Le terrassement s'est fait au départ en début de pluie et ensuite ça a cessé, donc on n'a eu pas trop de boue sur les routes de Saint-Symphorien. L'entreprise Langevin est vraiment très consciencieuse. On est vraiment très rassurés à chaque fois, à chaque 20 mois. Bon, ça fait deux réunions où je ne vais pas, puisque c'est Pascal qui va maintenant, hein, puisqu'il est rentré. Voilà, c'est une équipe rassurante et qui, de semaine en semaine, tous les lundis, on voit le travail réalisé. Ils ont mis en place sur le site un chef de travaux hors pair. Donc voilà, on est, pour l'instant, on est très très bien. Normalement, la toiture, la couverture, la charpente et la couverture première peau devraient être posées avant la fin du mois de juillet. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt bien parti.
Merci de ces informations. Le point suivant, qui est en point 13, vous n'y voyez aucune liaison, allusion à quoi que ce soit. Il est proposé ce soir au Conseil communautaire de désigner un référent déontologue pour les élus. Donc, le décret 2022-15-20 du 6 décembre 2022 porte application de la mesure d'une disposition de la loi dite 3DS du 21 février 2022 et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Les missions de référent déontologue sont assurées par une ou plusieurs personnes exerçant au sein des collectivités auprès desquelles sont désignées, aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans, n'étant pas agent de ces collectivités, ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts avec celles-ci. Autrement dit, ne peut pas être référent déontologue de l'élu local une personne exerçant un mandat local au sein de la collectivité, une personne ayant exercé un mandat local au sein de la collectivité depuis moins de 3 ans, toute personne ayant la qualité d'agent de la collectivité, toute personne se trouvant en situation de conflit d'intérêts avec la collectivité. Un collège composé de personnes répondant aux conditions précitées, un collège composé de personnes répondant aux conditions précitées peut être retenu comme déontologue. Mmh. Celui-ci adopte un règlement intérieur, ce collège, précisant son organisation et son fonctionnement. Le référent déontologue est désigné par l'organe délibérant et de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes peuvent désigner un même référent déontologue par délibération concordante. La délibération précise notamment la durée d'exercice des fonctions, les modalités de saisine et l'examen de celles-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, les moyens matériels mis à disposition. Cette délibération, ainsi que les informations permettant de consulter le référent déontologue, sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. Concernant les modalités d'indemnisation, la délibération peut également prévoir une indemnisation du référent déontologue sous forme de vacation dont le montant ne peut pas dépasser les plafonds fixés par un arrêté en date du 6 décembre 2022. Lorsque les missions sont assurées par une ou plusieurs personnes, 80 € par personne. Lorsque les missions de référent déontologue sont assurées par un collège, 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée ou 200 € pour la participation effective d'une séance du collège d'une demi-journée. À noter que les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités mentionnées en premièrement et deuxièmement. Le décret du 6 décembre précise également la possibilité de remboursement des frais de transport et d'hébergement ou encore les obligations des référents déontologues au respect du secret professionnel et à la discrétion professionnelle. L'obligation de désignation d'un référent déontologue est entrée en vigueur le 1er juin 2023. L'association des maires d'Ille-et-Vilaine a recherché des personnes acceptant d'être désignées en tant que référent déontologue pour les collectivités d'Ille-et-Vilaine. Les personnes suivantes ont donné leur accord. Il s'agit de Maître Michel Poignard, avocat honoraire à la Cour, spécialiste en droit public, et de M. Morgan Reynaud, responsable juridique en droit public. Considérant tout ceci et les obligations réglementaires, il est proposé au Conseil communautaire ce soir de valider les dispositions suivantes. Dans un article 1, désignation du référent déontologue, Maître Michel Poignard est nommé en qualité de référent déontologue des élus de la communauté de communes pour une durée de 3 ans jusqu'à l'expiration du mandat 2020-2026. Au terme de cette durée, il peut être procédé dans les mêmes conditions au renouvellement de ses missions. À la demande du référent déontologue, il peut être mis fin à ses fonctions. En article 2, concernant les modalités de saisine du référent déontologue, le référent déontologue peut être saisi par tout conseiller communautaire titulaire ou suppléant. Le référent déontologue pourra être saisi directement par un élu communautaire, par voie écrite, de préférence par mail, précisant dans son objet « saisine du référent déontologue, communauté de communes Valdy-Lobigné, confidentielle ». Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue auprès de l'élu ayant fait la saisine et auprès des services de la communauté de communes qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. C'est l'accusé réception qui mentionne tout ça. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu pour... Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires, par écrit ou à l'oral, et pourra recevoir l'élu afin de préparer son conseil. En article 3, modalité de délivrance du conseil, le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande, par écrit ou à l'oral, en fonction du souhait de l'élu concerné. Les avis et conseils donnés par le référent déontologue demeurent consultatifs. Et en article 4, rémunération du référent déontologue. Le référent déontologue sera rémunéré par une indemnité de vacation dont le montant est fixé par dossier traité à 80 euros, conformément à l'arrêté du 6 décembre 2022, pris en application du décret du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Des frais éventuels de transport et d'hébergement peuvent être pris en charge en cas de besoin dans les conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale après accord préalable de la communauté de communes. Il y a des questionnements. Pascal.
À la limite, ça peut être un outil dont peut s'emparer des oppositions dans les collectivités, de saisir systématiquement le référent déontologue. Et du coup, on ne maîtrise pas du tout le budget. Enfin, si chacun peut s'en saisir, ce qui est dans l'idée, pourquoi pas. Mais jusqu'où ça peut aller, quoi. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite. Donc moi, ça me surprend. C'est une charge nouvelle pour les collectivités, encore une charge non compensée.
Donc, bien sûr qu'il y a un garde-fou hein, sur le système. Hein, donc,
non. Je ne sais pas, mais à l'heure où, au mois de décembre, on pouvait se pencher sur le régime de retraite, il y avait des choses plus importantes à faire que ça. C'est mon avis.
Bon, je l'ai présenté au conseil municipal celle de la semaine dernière. Je peux vous assurer que ça intrigue qu'on ait du temps pour parler de ça, quoi.
Alain,
ça doit passer en conseil municipal.
Oui. Toutes les collectivités doivent désigner un référent déontologue.
Il n'y a pas un entrain énorme. Mais par contre, les gens s'interrogent.
Il y a un délai.
C'est en place depuis
applicable
le 1er juin.
Oui, applicable à partir de.
On a un délai pour statuer parce que ça peut être un délai raisonnable suivant la complexité du dossier, quoi.
C'est marqué, c'est en vigueur à partir du 1er juin 23.
Moi, personnellement, je vais attendre de me faire taper sur les doigts. C'est pas très grave.
Oui.
Et en bureau, on avait quand même évoqué peut-être un référent pour toutes les communes, en fin de compte. Et là, en fin de compte, on passe plutôt que sur la communauté de communes. On ne le passe pas pour les communes.
Mais rien ne nous empêche.
Moi, personnellement, j'ai pris la même délibération.
Oui, mais si la délibération proposée en commune est concordante avec celle-ci, proposée ce soir, avec le même avocat, il n'y a pas de difficulté.
Ça, ce n'est pas une difficulté, c'est juste que chaque commune a la charge de son référent déontologue quand il est sollicité.
Oui, mais là, en fin de compte, ce qu'on avait demandé en bureau, c'est que ce référent soit plutôt associé pour toutes les communes, en fin de compte. Après, je ne sais pas, moi, si vous en avez trouvé un, nous, on n'en a pas trouvé. Alors, on peut prendre celui-là. Enfin, je prendrai l'autre, du coup, parce que je vais lui donner un peu de boulot, parce qu'on ne sait jamais, quand même. Mais voilà, enfin, on s'était dit, au départ, on est une communauté de communes, pourquoi ne pas mettre en commun?
Après, ce n'était pas possible. Mais on peut mettre en commun le choix du référent déontologue, mais ensuite, c'est dossier par dossier qu'il est rémunéré, et en fonction de là où il y a une demande, que ce soit un élu communautaire ou un élu communal.
Oui, mais si c'est un élu communal qui demande, c'est la commune qui paie.
Bien oui, c'est ça.
C'est tout.
Oui, c'est tout.
Mais il faut prendre la délibération.
Il faut prendre une délibération.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas de vide juridique au cas où un élu communal, puisque l'exemple est pris sur la commune, demande au maire de bien vouloir lui donner les coordonnées du référent déontologue parce qu'il en a besoin à titre personnel. C'est exactement ça. Enfin, quand je formule ça, c'est... Moi, à Meulles, je m'attends à ça. Et partout.
Justement, alors, ce que je trouve pas très clair, c'est... Alors, malgré tout, c'est financier. Hein, le montant est fixé par dossier traité à 80 euros. Qu'est-ce qu'on appelle un dossier traité? Est-ce que...
Une question.
C'est une saisine et sa réponse. La saisine et sa réponse. 80 euros. C'est pas cher. Hein.
Et après, les compteurs tournent.
C'est pas cher. Mais le compteur tourne, mais quand les questions complémentaires ne concernent le même sujet que la question d'origine... C'est une fois 80 euros. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, moi.
Moi, je pense pas, hein, parce que les avocats, on voit bien quand...
Non, ça va être 80 euros à chaque fois qu'il reçoit un truc. Hein. Même si c'est la même question. Ah,
oui, mais dans le cadre d'un dossier, il est amené à demander, l'avocat, le référent déontologue, pardon, à demander des éléments complémentaires, ça reste dans le traitement du dossier.
Ah, c'est une seule saisine, on est d'accord. C'est une seule saisine.
Tu l'as bien dit, une saisine.
Une saisine.
80 euros.
Une saisine et sa réponse, 80 euros.
Plus les frais s'il se déplace, s'il y a un découché, des repas du soir, etc. C'est ça. Lionel, tu as un micro?
Là, on le montre, c'est un peu comme des jurés en assises. C'est des gens qui se sont mis volontaires, mais en fait, c'est pas dans le cadre. Ils sont tous les deux en retraite, là, si j'ai bien compris.
Tous les deux en retraite, là?
Oui. Oui, voilà.
Le deuxième, il a l'air assez jeune hein, quand j'ai regardé sa fiche. Il est de Mayenne, hein, donc les frais de déplacement risquent d'être un peu plus élevés. Donc on a bien fait de choisir le premier qui est d'Ille-et-Vilaine. Ouais. Le deuxième, il vient de Mayenne a priori, c'est celui que j'ai trouvé la bonne fiche, et il a l'air assez jeune, donc il ne doit pas être en retraite. Voilà, donc on parlait de retraité. Donc. Eux-mêmes, et ça veut dire s'il n'est pas retraité, il a peut-être besoin de plus d'argent.
Chacune et chacun a bien compris.
Alors, moi, pour en avoir discuté avec des habitants, ils me disaient que c'était dommage que les associations n'avaient pas été sollicitées, parce qu'il y avait des associations qui proposent ces services, mais je ne sais pas lesquelles, sur Rennes.
Est-ce qu'ils remplissent les critères ? Une association de...
Je vais me renseigner parce que, voilà. Mais je pense qu'il y a des associations en déontologie, ils s'y connaissent aussi, mais...
Ouais. Attention, parce que là, il y a tout le problème des conflits d'intérêts, des choses comme ça derrière. Hein. Donc, dans une association, il faudra que personne du bureau... Enfin, je pense qu'attention au risque juridique derrière. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein.
Bien, je vous propose Gérard.
Oui, enfin, moi, je voulais faire une réflexion parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie suivant un code de déontologie. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'articles que la charte de l'élu local. Quand même, c'est des considérations tout à fait générales. Effectivement, tout peut être interprétable avec ça, quoi. De toute façon, à ce moment-là, on peut attaquer n'importe quand, auquel cas, derrière la réponse sera si on respecte ce charte de l'élu local, la réponse sera d'ordre général aussi, quoi.
Oui. Bien. En application de la loi, je propose au Conseil de valider la désignation comme déontologue. Comme référent déontologue pour les élus de la communautaire, Maître Michel Poignard, avocat honoraire à la Cour, selon les dispositions, les articles dont j'ai pris le temps de relire intégralement. Je soumets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote. 2. Qui est opposé ? Ah, ça fait 4. Qui est opposé ? Qui souhaite s'abstenir ? 4. Donc, une fois que la délibération a obtenu le feu vert du contrôle de légalité, ça veut dire qu'il y a une lettre adressée à chaque élu communautaire, titulaire et suppléant, pour les informer que leur référent déontologue en tant qu'élu local communautaire est Maître Michel Poignard. Avec son adresse, son numéro de téléphone, son adresse mail. Et ceci sur... je propose qu'on rappelle les articles, hein, qu'on fasse copie des articles pendant 3 ans. Ouais. 3 ans à partir d'aujourd'hui.
Pourquoi on est obligé de faire ça ? Parce que de toute façon, c'est de connaissance publique. Pourquoi on est obligé d'envoyer un courrier en plus ?
Ben, je pense que chaque élu doit être informé.
Ben, il est ici. Il a le compte rendu. Enfin, faut peut-être pas qu'on tombe dans. C'est prendre des risques. Hein. Enfin, bon, je.
Comment ? Non, c'est pas tendre la perche. C'est pas comme ça que je le.
Faut peut-être pas faire trop de publicité sur ce truc-là. Quoi.
C'est exactement ce que je pense. Hein, donc.
Je suis d'accord avec
le document, le compte rendu, il va être vu de toute façon en conseil, ça suffit.
Le compte rendu est également adressé à tous les conseillers communautaires suppléants ?
Bah alors dans ce cas-là, dans le compte rendu, il faut l'adresse mail et puis le téléphone et tout de Maître Poignard, parce qu'autrement, ça...
Ouais, c'est pas très heureux quand même. Mais les saisines de ce référent déontologue, c'est pour des questions qui concernent celui qui pose la question, celui ou celle qui pose la question. C'est pas, ça ne doit pas être au-delà de ça. Et il faudrait presque le repréciser. Ce n'est pas une saisine d'un avocat pour le plaisir de saisir un avocat.
Oui, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas, on ne saisit pas le déontologue parce que, par exemple, le maire a fait une action ou le président de la communauté de communes a fait prendre des décisions. C'est par rapport à sa propre action. C'est bien,
oui,
ça.
C'est ça.
C'est bien ça. C'est-à-dire que je saisis le déontologue pour savoir si je ne fais pas une erreur. On est bien, oui, d'accord. Hein.
Okay. Bah, que, ouais. Quels sont les risques que je prends en faisant telle chose ?
Ah ben bah non, justement. Mais non, pas inversement. Non, justement. C'est, bah, c'est parce que c'est parce qu'il nous a expliqué en bureau. Hein.
En faisant quoi ?
Ben, c'est une question que j'ai posée en bureau. On m'a dit non, c'est, on saisit le déontologue par rapport à sa propre action et non pas vis-à-vis de juger une action, l'action d'un autre élu. C'est ce qui avait été dit l'autre jour. Confirmez. C'est ça. Hein.
Vous confirmez ? Il faut le préciser, il faut le réécrire. Hein. Bien. Je pense qu'il faut préparer quand même une communication qui soit la plus précise possible pour savoir dans quelles conditions celle ou celui qui souhaite avoir un avis du référent déontologue peut valablement saisir. Quoi. Bien. On a quelques points concernant les budgets.
Oui, donc...
D'insertion.
Donc on a plusieurs points du 14 au 17 qui concernent le même sujet. Donc on a mis en place une comptabilité d'engagement, ce qui est une très bonne chose au mois de novembre. Par contre, on a eu un petit problème lié à la non-mise à jour, et en particulier à cause de nos outils techniques, sur les contrôles de résultats nécessaires suite à la mise en place de ce contrat d'engagement. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu des engagements non soldés qui subsistaient en comptabilité, qui ont été supprimés trop tard, et ça affecte les résultats 2022 qui ont été faussés. Donc, ce que je vous propose ce soir, donc, c'est de revoir un certain nombre de points concernant des résultats qui doivent être revus, donc résultats qui ont été votés au Conseil communautaire de fin mars, concernant l'exercice 22, mais pour lequel il y a, je dirais, des corrections à apporter. Donc ça concerne le chantier d'insertion. Alors les corrections sont tous dans le bon sens, donc c'est-à-dire que c'est avec un résultat cumulé supérieur. Donc là, sur le chantier d'insertion, l'écart est de 526,87 €, qui fait que de toute façon, le résultat cumulé au niveau fonctionnement n'est plus de 18 265,24 €, mais 18 792,11 €, et au total en cumulé donc de 39 387,54 €. Donc ce que je propose, c'est de revoter le résultat de l'exercice 22 du compte du chantier d'insertion avec ce delta de 526,87 € en plus.
Bien, avant de voter, Isabelle, je te confie la présidence, je dois sortir.
On est dans la même situation qu'au mois de mars. Donc,
moi, j'étais ailleurs.
Donc.
Donc. Bonjour à tous. Alors, sur ce point-là, est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre part au vote ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Okay. Donc, le point suivant, je vous remercie.
Alors, pour faire simple, pour éviter à Claude de faire deux allers-retours, je propose de passer directement au point 17, parce que je suis dans le même cas, et après, on passera à l'exercice 23, qui permettra à Claude de revenir dans la salle.
D'accord. Okay.
Donc là, on est dans la même situation. Alors là, c'est sur le budget principal. C'est la même cause, hein, sur lié à la mise en place de la compta d'engagement. Là, l'écart est de 7 000... parce que c'est dans le point sur 7544,27 en plus. Donc le résultat cumulé du budget principal établi à 4 440 228,95 au lieu de 4 432 684,68.
Moi, je ne vois pas les 7 000, on les voit où? C'est juste
l'excédent global cumulé pour 2022 est de 4 440 000. Là, j'ai passé je peux vous remettre l'excédent de clôture de l'exercice de fonctionnement à 414 869,28. Le déficit de clôture de l'investissement à -338 047,93 €. Et donc, l'excédent global de l'exercice, 76 821,35. Et donc, l'excédent global cumulé pour 2022 à 4 440 228,95. J'avais été un peu rapide.
D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote pour cette correction? Des oppositions? Des abstentions? Merci.
Donc, nous avons passé le point 14 pour l'exercice 22 du chantier d'insertion, mais on a profité pour pas que tu fasses des allers-retours sur l'impact sur le budget principal 22, donc le point 17.
Merci.
Donc, l'impact là-dessus, c'est que sur le budget 2023, il nous faut augmenter les crédits d'autant. Donc, le premier point, c'est l'augmentation des crédits sur le compte 002, résultat de fonctionnement de l'exercice précédent, qui est d'un montant de 526,87 en. C'est une demande de modification pour renforcer ce budget de 526,87.
Budget annexe chantier d'insertion. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Et la même chose.
Donc on a la même chose au budget principal de 7544,27, donc sur le compte 002 du résultat de fonctionnement reporté, donc qui est augmenté avec des flux comptables, avec les dépenses imprévues.
Merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci.
On a quelques effets sur d'autres budgets, donc qui nécessitent sur du budget 23 de faire une correction de résultat. Donc là, c'est sur le budget de la zone d'activité des Olivettes 2. Donc pour 2081,24 en crédit supplémentaire, compte 002, résultat de fonctionnement. Donc dans la même logique.
Merci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. Et le domaine de Boulay?
Donc là, c'est autre chose. Nous avons, après un temps très important à chercher le problème, essayé de retrouver la justification d'une incohérence entre le compte administratif et le compte de gestion concernant le budget annexe du domaine de Boulay. Et donc, on peut, après beaucoup de travaux avec le Trésor, avec la DGFiP, dire que non, qu'on a une erreur de 1,74 € qu'on n'a pas trouvé. Donc, on va dire que c'est lié à un dysfonctionnement du logiciel comptable. Et donc, il est nécessité de rectifier d'autant, c'est-à-dire de 1,74 €. Je dirais, en apportant un crédit du compte 002 sur les dépenses imprévues de 1,74 €. Je peux assurer que beaucoup de recherches ont été faites pour ces 1,74 €.
Très bien. Qui ne prend pas
plus que 1,74 €.
Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci.
Enfin,
et le budget du SPANC à un SPA.
Donc là, c'est dans le cadre de l'exercice 2023. Donc, je dirais, il y a un remplacement de véhicule. Comme qui dit remplacement de véhicule, dit qu'il y a revente d'un véhicule existant. Et donc, il y a une reprise. Et comme cette reprise, donc, elle n'est pas prévue d'avance par nature. Et donc, il nous faut augmenter les crédits d'autant de la reprise, c'est-à-dire 1 000 €, je dirais, dans matériel de transport en dépenses et en recettes, donc le 2182. Donc, et ça nous permettra, je dirais, de... par rapport au rachat qui est un peu supérieur à ce qu'on a au budget, de compenser, puisque je crois que c'est de 800 € supplémentaires par rapport à notre budget. Et là, on a 1 000 € en reprise de véhicule. Donc, il nous faut augmenter le budget.
C'est quel véhicule qui est remplacé?
La 206.
Oui, la 206.
Ouais. Du technicien SPAN qui fait les contrôles.
Qui fait un peu de kilomètres.
Je soumets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui s'abstient? Merci. ceci clôt les points inscrits à l'ordre du jour. À titre d'information, vous aviez à suivre dans la note de synthèse des points l'information qu'il est normal de communiquer à l'ensemble des conseillers communautaires. Et on arrive donc à la fin de ce conseil communautaire. En vous remerciant.
Je profite avant qu'on parte. C'est un sujet hors du conseil, mais qui nous concerne
donc
tous.
Je clôt la séance du conseil.
Pardon.
Je clôt la séance du conseil et je te donne la parole.
Merci. J'ai reçu de la part du président de Culture en Vie, M. Bruno Lys, une sollicitation pour voter pour le projet, notre projet, qui concourt pour le budget participatif départemental. Il s'agit de l'acquisition de 3 vélos, vélo-bus, vélo-bar, vélo-porte-charge, qui sont destinés, en fait, 3 équipements pour animer les festivals et les événements des 19 communes du Val-d'Ille-Aubigné. Aidez-nous à porter la convivialité au déplacement du public et des bénévoles. Ensemble, limitons l'impact environnemental, etc. Cliquez ici pour voir le détail du projet. Donc, j'ai contacté Bruno Lys et... Donc il y a 130 projets, on a vu sur le site département, 131 projets qui peuvent concourir pour bénéficier du budget participatif. Dans les critères d'attribution, il y a le nombre de votants pour chaque projet. Donc si M. Lys n'envoie qu'à quelques élus qui s'occupent de la culture, on ne va pas gagner. Donc ce serait bien qu'on sollicite nos habitants très largement pour voter pour ce projet. J'ai pas... Oui, bon, donc là, je pense qu'on est mal parti. Si on...
Pardon, si je peux me permettre, sur notre territoire, il y en a plusieurs.
Oui,
il y a
Moisé,
il y a Melès. Voilà, bah pardon. Oui.
Non, vas-y, Isabelle.
Alors, moi, j'ai regardé sur le site du département où voilà, j'ai cherché ceux qui étaient sur notre secteur. Donc, j'ai vu qu'il y avait Moisé. J'ai vu, je crois, Sens de Bretagne. Et Melès, je crois qu'il y en a 2. Et voilà. Et il faut voter pour 3. Donc, voilà, j'allais dire. Et bon, on peut voter sur notre territoire, mais on peut voter aussi pour d'autres projets, chacun. Merci.
Ben, je crois qu'il faut déjà solliciter au maximum tous nos habitants.
Pour qu'ils votent pour les projets qu'ils souhaitent.
Oui, mais la clôture, c'est le 30 juin.
Oui, je sais. On peut faire un rappel via un message de type message Facebook pour rappeler qu'il y a le vote du budget participatif du département jusqu'au 30 juin. Peut-être rappeler l'ensemble des projets qu'il y a sur le territoire. Que je ne vois pas pourquoi on irait cibler un seul.
Pour information, le projet de Moisé, juste, c'est notre troupe d'improvisation théâtrale qui se déplace pas mal, qui est venue par exemple récemment à Andouillé, qui demande une subvention de 15 000 euros pour acheter une piste de... Enfin, ils appellent ça une piste, hein, une patinoire pour faire les prestations, pour pouvoir se déplacer sur les différentes communes autour de Moisé.
Très bien. Merci. Bon, pour cette séance, on a eu le plaisir d'avoir 2 personnes en public que je remercie, et tout particulièrement Emmanuel, qui nous a fait le plaisir de venir assister à notre conseil communautaire de ce soir. Merci pour ta présence qui nous a déjà permis, avant que la séance ne démarre, de pouvoir échanger avec toi et qui peut se poursuivre après la séance. En tout cas, merci beaucoup. Vous deux d'être présents.
Oui, donc on vous offre bien évidemment un pot de façon tout à fait déontologique pour continuer à discuter ensemble. Merci.